Europe Soir Weekend.
Pierre de Villeneuve.
Bonsoir, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Bienvenue dans Europe Soir, 2 heures d'infos, de décryptage et de débat. 18h sur Europe 1. Et au sommaire, combien de ballons espions chinois volent-ils au-dessus de nos têtes? Hier, c'était un. Aujourd'hui, ils sont deux. Tout le monde a bien compris que non, ce n'était pas une simple mission météo. Donald Trump demande même qu'on tire à vue. Mais tout cela n'est pas si simple. Enquête dès le début de ce journal. Une hérésie écologique alors que les marines occidentales, avec de nombreuses ONG, tentent d'exploiter la faune et la flore des fonds marins. Le Brésil a décidé de couler le Foch par 5000 mètres de fond au large de ses côtes. Une folie écocidaire, nous diront les Robin des Bois. En plein débat sur les retraites, Olivier Dussopt, sous le coup d'une affaire de marché public vieille de 14 ans. Le parquet national financier relève du favoritisme. Curieusement, ce même PNF avait accusé le ministre du Travail de Nicolas Sarkozy en pleine réforme des retraites en 2010. C'était Éric Woerth. L'histoire ne se répète-t-elle pas? Catherine Ney pour l'analyse dans ce journal et nous en reparlerons avec les débatteurs, bien sûr. Également dans cette édition, les départs en vacances et le retour du grand froid. Cumulé, ça donne des chaussées glissantes, alors on sale. Reportage à suivre. La journée mondiale de lutte contre le cancer, encore beaucoup trop d'inégalités, nous verrons cela. Et puis le foot avec le PSG qui accueille Toulouse. Nous rejoindrons Cyril de la Morinerie au Parc des Princes. La tendance météo, Valérie Darmon.
Eh bien, une grisaille matinale assez tenace sur toute la façade est, les Landes, la Bretagne, le centre du pays. La neige qui retombe à basse altitude et le soleil qui brille toujours sur le pourtour méditerranéen.
A tout à l'heure pour la météo complète, 18h15, Ludovic Mendes, député Renaissance de Moselle, avec Sacha Houlier et quelques autres. Il a les mains dans le cambouis dans la loi immigration qui devrait suivre celle des retraites. 18h30, ça fait débat. Le constitutionnaliste Benjamin Morel et le président du think tank Le Millénaire, William Tay. 19h15, un sacré numéro, fête ses 40 ans. En 1983, Peugeot lançait la 205. Il s'en est vendu 5 278 000 exemplaires de toutes sortes. Elle reste la voiture ancienne la plus vendue en 2022. Xavier Crespin, le patron de l'aventure Peugeot Citroën DS, quittera quelques instants le salon rétromobile pour venir nous en parler. 19h30, panorama. Comment faire du business? Comment trouver les bons partenaires sans se faire plumer? Le réseau compte, le network, mais le réseau, ça s'intègre. Et aujourd'hui, c'est plus facile. Fabienne Arata, DG France de LinkedIn pour le premier réseau pro au monde, sera avec nous. Ainsi que Harold Parisot, il y a 10 ans, il créait le Chinese Business Club. Aujourd'hui, s'y côtoient les patrons du CAC et de jeunes entrepreneurs. Deux réseaux complémentaires, on en parle tout à l'heure. L'incident est resté très peu de temps anecdotique. Le ballon chinois au-dessus du nord des États-Unis crée la polémique. Ballon espion ayant parcouru plus de 4000 km pour arriver, prendre des photos, se saisir de toutes les datas, écouter toutes les conversations téléphoniques. Anthony Blinken a décidé de reporter son voyage à Pékin, qui y voit là une forme de défiance. Partons aux États-Unis rejoindre le correspondant d'Europe 1, Alexis Guilleux. La guerre diplomatique est enclenchée, d'autant qu'il y a maintenant un deuxième ballon. Allons, Alexis.
Oui, il s'agit également d'un engin chinois, affirme le Pentagone, sans préciser sa localisation, mais on sait qu'il ne se dirige pas vers les États-Unis. Le premier ballon est, lui, maintenant au-dessus de la Caroline du Nord, sur la côte Est. Il a été récemment aperçu dans la région de Charlotte. La Maison-Blanche fait savoir que Joe Biden est constamment tenu au courant de la situation. En tout cas, cet incident illustre l'inquiétude américaine vis-à-vis de la guerre technologique menée par la Chine. Selon le Pentagone, Pékin consacre un peu plus de 1% de son PIB, 210 milliards de dollars à son armée. Washington est particulièrement préoccupé par les opérations de renseignement menées par son rival, observation de bases militaires, d'entraînement de pilotes, car il y a bien une crainte aux États-Unis être un jour dépassé technologiquement par la Chine. À Washington, démocrates et républicains ne cachent pas leur colère après cette violation de la souveraineté américaine. De nombreuses voix d'opposition, comme celle de Donald Trump, appellent à abattre le ballon espion et plusieurs élus conservateurs n'hésitent pas à se mettre en scène, fusil d'assaut en main, le regard tourné vers le ciel.
Merci Alexis. Guilleux, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. L'autre actualité qui fait sursauter, c'est aussi le coulage la nuit dernière du porte-avions Foch, celui qui, dans les années 60, avait été le fleuron de la marine nationale. Il avait été vendu en 2000 aux Brésiliens, alors qu'était mis en service le Charles de Gaulle. Le Foch, en fin de vie, devait initialement être démantelé en Turquie, mais finalement Ankara a décidé de ne pas prendre en charge le navire. Le Brésil a donc fini par décider de le couler par 5000 mètres de
fond, expliquant qu'il n'y avait pas d'autre solution. Décision incompréhensible à l'heure où justement on tente de percer les abysses, leurs trésors, la faune, la flore qui pourrait servir aux médicaments, à plein d'autres technologies. Décision révoltante que dénoncent bien sûr en premier lieu les écologistes, Lucie Depertuis.
Oui Pierre, une décision vivement critiquée et même qualifiée de bombe à retardement par l'ONG Robin des Bois. Le porte-avions Foch pourrait impacter la biodiversité marine pendant des décennies. C'est ce que nous explique Jackie Bonnemain, il est porte-parole des Robin des Bois, une ONG de défense de l'environnement.
Des cuirassés coulés en 1914 continuent à répandre un siècle ou 70 ans après des poisons, des hydrocarbures dans l'océan. Les épaves de navires de guerre sont des bombes à retardement.
Jackie Bonnemain qui pointe également la responsabilité de la France dans cette catastrophe écologique. C'est elle qui a vendu le porte-avions au Brésil. C'était en 2000.
Il y avait dans la licence d'exportation une clause selon laquelle la France devait approuver les conditions du démantèlement du navire en fin de vie. Et on n'a jamais entendu parler d'une réaction du ministre des Armées français à ce sujet.
La prochaine phase pour les associations, effectuer des diagnostics, notamment sur les poissons issus de la pêche pour déterminer s'ils sont contaminés par des substances toxiques.
Merci de ces précisions, Lucie Depertuis. L'actualité politique du jour, c'est la révélation par Olivier Dussopt lui-même de l'enquête dont il fait l'objet par le parquet national financier. Le PNF retient le chef de favoritisme dans une opération d'offre publique datant de 2009 lorsque l'actuel ministre du Travail était maire d'Annonay en Ardèche. Olivier Dussopt plaide sa bonne foi. Il est soutenu par Matignon encore ce matin. Mais comment s'empêcher de ne pas faire le parallèle avec une affaire strictement symétrique en 2010 lorsque le ministre du Travail Éric Woerth était lui aussi inquiété dans des affaires lors d'une autre réforme des retraites. Catherine Ney expliquait, c'était ce matin sur Europe 1 dans les grandes voix.
Il y a 12 ans, au moment où Éric Woerth, qui avait été nommé par Nicolas Sarkozy pour défendre cette réforme très impopulaire, alors à peine avait-il commencé, même pas commencé le débat à l'Assemblée, que Mediapart s'est mis à sortir des tas de choses, l'accusant d'avoir favorisé l'emploi de sa femme chez Bettencourt avec M. Metz, qui était un donateur. Enfin, des amalgames, c'était sans arrêt. Mais alors, il a été relaxé de tout. Et ça lui a valu son poste de ministre. Il a quitté le gouvernement. Oui. Enfin, ça a été pour lui un calvaire. Remplacé. Alors là, je ne dis pas que l'histoire se répète, mais là, comme par extraordinaire, Monsieur Dussopt avait passé un contrat avec la SOR qui faisait qu'il l'eau dans les villes. Bon, donc, on dit qu'il n'y a pas de corruption, mais quand même, favoritisme. Bon. Alors, le PNF se saisit de ça. Moi, le PNF, est-ce qu'il est compétent ?
Parquet
national financier. Dans la circulaire de Christiane Taubira, le 31 janvier 2014, elle disait qu'il doit se saisir dans les affaires qui apparaîtraient d'une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes, et aussi des affaires susceptibles de provoquer un retentissement national ou international. Alors, vous voyez bien que ce n'est pas une affaire complexe, c'est M. Dussopt tout seul. Mais alors, retentissement national, c'est vraiment un choix politique. Le retentissement, c'est de salir un homme qui va défendre. C'est toujours la même chose.
Catherine Ney sur l'affaire Dussopt ce matin dans les grandes voix d'Europe 1. On y revient bien sûr tout à l'heure à 18h30 dans Ça fait débat. Et également avec notre invité à 18h15, invité politique Ludovic Mendès, député Renaissance. À suivre dans le journal les départs en vacances avec quelques intempéries pouvant sévir pour les voitures. Du coup, on sort les saleuses. À tout de suite sur Europe 1.
Europe Soir Weekend. Pierre de Villeneuve.
Le retour du journal à 18h10 et premier départ en vacances d'hiver ce samedi avec la zone A, des départs qui riment avec le retour du froid. Nous le verrons avec Valérie Darmon et donc des chaussées glissantes. Pour les grands axes, un seul moyen, le salage. Mais traiter les chaussées au volant de ces gros camions n'est pas sans risque. Pour preuve, deux accidents ces derniers jours sur l'A62 et sur l'A89. Les professionnels des autoroutes rappellent très solennellement les règles à observer lorsque on se retrouve dans cette situation au volant de sa voiture. En Gironde, le reportage du correspondant d'Europe 1, Stéphane Place.
Je surveillais donc mon pupitre de salage, ma caméra qui me montre que le sel s'écoule bien. J'ai entendu un crissement de pneus, je tourne la tête pour voir ce qui se passait dans mon rétroviseur, j'ai senti qu'on venait me percuter sur la roue avant gauche. J'ai vu le véhicule repartir devant mon poids lourd, en tête à queue, en sens inverse à la circulation, sur les glissières en bande d'arrêt d'urgence.
Plus de peur que de mal et heureusement pour l'automobiliste et pour Ludovic, qui est l'un des trois techniciens de Vinci Autoroute dont la saleuse a été percutée en l'espace de 48 heures ici dans le sud-ouest. Trois accidents lors de dépassements de ces engins qui sont d'énormes poids lourds visible de loin. Nicolas Matonnière, chef de district chez Vinci Autoroute à Langon.
Lors de l'épandage du sel, ces véhicules circulent avec un feu bleu, donc ils sont visibles de très loin. Par contre, il faut avoir en tête que ce sont des véhicules qui circulent à une faible allure. En phase d'épandage, ils circulent à 50 km à l'heure. La règle, c'est d'avoir de la plus grande prudence à l'approche de ces véhicules. Encore une fois, ces feux bleus leur donnent, on doit faciliter le passage à ce type de véhicule.
Vinci Autoroute appelle à la prudence et indique que l'entreprise déposera plainte systématiquement en cas de heurts de ces véhicules.
Reportage en Gironde de Stéphane Place. Et à 19h, nous rejoindrons le correspondant d'Europe 1 dans le Rhône-Alpes pour un point complet sur ses premiers départs vers les stations des Alpes. Cette année, le thème de la journée mondiale contre le cancer est « Pour des soins plus justes ». Car en 2023, en France, avec un système de santé à bout de souffle, les déserts médicaux, les inégalités déjà fortes s'aggravent. Et lors de la prise en charge, eh bien, les Français ne sont pas tous égaux. La Ligue contre le cancer pointe du doigt les inégalités de soins et de prise en charge qui persistent avant, pendant, mais aussi après le cancer, Yasmina Katou.
Oui, par rapport au reste de la population, les moins diplômés et les personnes fragiles économiquement sont deux fois moins diagnostiquées via les dépistages organisés. C'est ce que révèle une étude de la Ligue contre le cancer. Résultat, les diagnostics sont plus tardifs, les traitements plus lourds et les chances de survie réduites. Il y a aussi des inégalités d'accès aux soins qui persistent sur le territoire, explique Emmanuel Ricard, délégué à la prévention pour la Ligue.
Il y a pour les dépistages des questions d'accès qui se posent au centre de radiologie pour les mammographies. Et on sait que le fait que le déplacement n'est pas pris en charge est aussi une vraie limitation pour certaines populations. Et ça se traduit dans les chiffres de participation.
Par ailleurs, les soins que l'on appelle de support, comme le sport qui diminue les risques de rechute, sont moins proposés aux habitants des zones rurales. Pour pallier ces inégalités, la Ligue apporte gratuitement son soutien et dispense des conseils au 0800 940 939.
Yasmina Katou, spécialiste santé d'Europe. On termine par le sport. Avant de terminer par le sport, sachez qu'il y a une spéciale lutte contre le cancer avec Yann Max ce soir dans la Libre Antenne à partir de 23h. Vous lui posez toutes vos questions. Qu'est-ce que j'ai dit ? Yann Moix, oui, M-O-I-X. Non mais bien sûr, je sais qui est Yann Moix quand même. Pas me prendre pour un... Bref. On termine par le sport et le football. 22e journée de Ligue 1. C'est le Paris Saint-Germain qui accueille Toulouse. Cyril de la Marinerie, vous êtes au parc ?
Oui, 58 minutes de jeu, un partout entre le Paris Saint-Germain et Toulouse. Eh bien, ça avait mal commencé pour le PSG. C'est à la 19e minute que Toulouse, contre le cours de jeu, a pu marquer le premier but. Un superbe coup franc de Van den Bommel et surtout une erreur du gardien de but Donnarumma qui est parti du mauvais côté. Il était donc pris à contre-pied. À la 33e minute, on a eu un corner de Messi que Marquinhos a tenté de dévier. Poteau. Le Paris Saint-Germain, finalement, s'en est remis à une superbe frappe d'Hakimi, le demi-finaliste de la Coupe du Monde avec le Maroc. Hakimi qui monte en puissance avec le Paris Saint-Germain. Superbe but, il était à 25 mètres. Et il a donc fait une frappe enroulée du pied gauche. Le Paris Saint-Germain qui joue ce soir sans Kylian Mbappé, sans Neymar, sans Verratti, sans Ramos. Ceci peut-être explique cela alors qu'il y a une nouvelle frappe à Hakimi qui est passée juste à côté. Sachez également qu'il y a eu un blessé en début de match avec Renato Sanchez qui est sorti sur blessure. Ça ne va pas arranger les affaires du Paris Saint-Germain qui dans quelques jours affrontera à Marseille l'OM en Coupe de France. À partout dans ce match, 58 minutes de jeu entre le PSG et le TFC.
Merci mon cher Cyril de la Marinerie. À tout à l'heure à 19h dans le journal. 19h où on aura le coup d'envoi de 3 Lyon et à 21h le match du soir Rennes-Lille dans cette 22e journée de Ligue 1. La météo Valérie Darmon, on prend les mêmes et on recommence.
Et oui, et plus encore Pierre, hein, parce qu'on connaît plus de bandes brouillard le matin sur un bon quart nord-ouest et dans les vallées du centre. Hein, donc prudence sur les routes, vous le disiez dans le journal. Vous connaîtrez aussi de nombreux nuages bas sur le sud-ouest, beaucoup plus que ce matin. Il pleuviote près des côtes de la Manche et sur le nord-est, où un peu de neige va tomber à partir de 800 mètres et même un peu plus bas dans la soirée. En revanche, le temps est à l'amélioration dans le nord-ouest parce que de belles éclaircies réussissent à se développer de la Bretagne au centre jusqu'au Hauts-de-France. Et sur le pourtour méditerranéen du Languedoc-Roussillon à l'ouest de la Provence, le soleil continue de l'emporter jusqu'au soir. Ensuite, ça va tourner à la pluie. Mistral et Tramontane soufflent encore assez fort avec des rafales jusqu'à 100 km/h. Donc le temps se dégrade plus à l'est avec des nuages qui vont envahir le ciel au fil des heures jusque sur la Côte d'Azur. Les températures maximales sont en baisse, elles le seront encore plus lundi,
mais oui,
avec des valeurs entre 7 à Rodez et Guéret et 15 à Marseille et Nîmes. Ensuite, c'est un froid drastique qui va s'installer sur la France, mais on aura du beau temps Sur la moitié nord, quasi sur tout le pays d'ailleurs.
On n'a rien sans rien, Valérie Darmont.
Ben, on n'a pas fromage et dessert à chaque fois, Pierre.
Eh ben voilà, c'est bien dommage.
Je sais que vous êtes gourmand.
C'est bien dommage, vous êtes comme moi, vous aimez bien avoir les deux.
Exactement, à tout à l'heure.
Merci Valérie Darmont, à tout à l'heure. Pour une autre météo, 18h16, vous restez avec nous dans un instant. L'interview politique avec Ludovic Mendès, député Renaissance de Moselle. Il fait partie de ceux qui planchent sur la loi immigration qui devrait suivre la loi sur les retraites. À tout de suite.